Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Les punitions. Un sujet important, un sujet délicat, qui n'est pas évident. La plupart d'entre nous les ont connus dans leur enfance, et pour le coup, cela peut sembler comme une méthode, à défaut d'être efficace, que l'on peut reproduire. À la toute fin de cet épisode, exceptionnellement, je vous proposerai une réflexion très personnelle sur le sujet. Dans cet épisode, je reçois Marie Costa. Au cours de 25 ans d'enseignement en maternelle, primaire et secondaire, elle a accompagné plus de 600 enfants, adolescents et leurs parents. Elle est diplômée d'un master en sciences de l'éducation et d'un diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Elle a également été certifiée coach parental, et tout au long de son parcours, elle s'est passionnée pour des approches complémentaires et donc a suivi différentes formations sur la précocité, les 10, les intelligences multiples, le harcèlement à l'école, la gestion des émotions avec l'apport des neurosciences. Elle a écrit différents livres, et celui par lequel je l'ai connue, et qui d'ailleurs m'a donné vraiment beaucoup d'idées pour travailler moi-même sur mon rapport aux punitions, c'est « Sans idées pour éviter les punitions » paru aux éditions Tom Pouce. Comme vous le savez, il n'y a pas de méthode magique, ça n'existe pas. Mais on peut, en effet, prendre les idées des autres, les idées que nous on peut avoir, pour essayer d'éveiller notre créativité, pour trouver des solutions et des stratégies alternatives. Et c'est justement tout le sujet du livre de Marie Costa que je vous invite bien sûr à lire. Vous pourrez y piocher tout un tas d'idées, selon les situations, selon les âges. Vraiment, c'est très très pratique et facile à lire, à utiliser. Je vous invite à le consulter. La première question que je voulais poser à Marie Costa, c'est « Si les punitions ça marche, pourquoi est-ce que les enfants recommencent ?» Je vous souhaite une très bonne écoute.
Oui, alors justement, ça c'est une des questions quand je dis aux parents, vous connaissez vraiment la définition déjà de la punition. Est-ce que Cédric, vous la connaissez, cette définition du Larousse?
Eh ben non. Allez, non.
Alors on définit la punition comme l'action d'infliger une peine pour un manquement à un règlement. Une punition est une sanction qui a été intentionnellement choisie pour être pénible. Elle fonctionne sur le mode de la dissuasion. Donc en fait, on a choisi de punir les enfants parce qu'on s'est dit, ils vont pas recommencer. Alors, je pose la question aux parents ce soir, ou aujourd'hui, est-ce que lorsque vous avez donné une punition, vous avez été obligé de repunir une deuxième fois? Et si c'est oui, c'est que la punition n'a pas été efficace. Si on punit deux fois l'enfant pour la même chose, c'est que finalement, ça n'a pas été efficace. Donc, pourquoi continuer, en fait? Pourquoi recommencer? La punition, elle n'apprend qu'une seule chose en fait, elle apprend seulement à éviter d'être punie. Elle apprend juste ça. Alors c'est Thomas Gordon qui a écrit ça en disant que les effets de la punition, c'est que d'abord ça s'entraîne souvent une grande tristesse. Les enfants sont très tristes, ils vont pleurer, ils vont dans leur chambre, ils peuvent avoir honte, ils peuvent être très frustrés. Donc voilà, ils peuvent ressentir de la rancune, de la rancœur, de la peur, parce que quand on punit, on fait peur. On a envie aussi que l'enfant, tout d'un coup, il arrête ce comportement et qu'il change d'attitude et qu'il devienne plus grand et qu'il se responsabilise puis qu'il recommence pas. Donc en fait, quand on est parent, souvent, on en rajoute jusqu'à ce que l'enfant, il se sente vraiment mal et qu'il aille pleurer et qu'il aille dans sa chambre et puis on lui dit, réfléchir en plus. Donc voilà. Alors, on pense qu'à ce moment-là, il va réfléchir. Or, dans le cerveau, quand l'enfant est puni, c'est tout l'inverse qui se passe. La raison, elle est toute petite et l'émotion, elle est très grande. Comme je vous disais, toutes ces émotions de détresse, de tristesse, d'amertume, de vengeance, d'impuissance, de nonchalance, parce qu'il y a des enfants, quand même pas peur, même pas mal, quand on les punit, on a beau les punir et au contraire, les parents me disent « il faut que je rajoute un peu plus à chaque fois la punition, il faut que je mette une punition un peu plus dure la fois suivante, parce qu'il a même plus peur, il a même plus mal ». Et il y a des enfants comme ça qui ont 4 ans et qui me disent « mais moi, ça ne me fait rien la punition, ça ne me fait plus rien ». Donc en fait, ces enfants-là, ils sont dans les émotions très très fortes et ils ne sont pas du tout dans la réflexion. Ils sont incapables de réfléchir, ils sont incapables de se poser et de réfléchir à leur acte pour ne pas recommencer. Donc c'est contre-productif puisque de toute façon, les deux le cerveau de l'émotion et de la raison sont pas compatibles, on fonctionne pas à ce moment-là. Quand on est très très en colère, vous êtes au volant et on est en train de vous faire une queue de poisson, Cédric. Je vous promets, vous n'êtes pas en train d'être tranquille et de réfléchir. Là, vous avez juste envie d'insulter le chauffard qui vient de faire ça. Donc à ce moment-là, on peut pas réfléchir. Un enfant, quand il est puni, il est dans le même état. Il peut pas réfléchir. Il est juste en colère. Il a envie d'hurler, de pleurer, de taper, de se venger aussi. Alors après, on peut fermer des petites coalitions avec ses frères et sœurs. La prochaine fois, on ne sera pas prendre. Ou alors, on va tricher. On veut vraiment gagner. On va détester perdre. On va essayer de... Ou alors, on court aucun risque. On se dit, bon, bah, la prochaine fois, voilà, je fais plus rien. Je reste dans mon petit coin. Et puis, on peut blâmer les autres. Alors, les parents me disent, oui, il ment. Il ment après la punition, il veut pas, mais c'est parce qu'ils ont tellement peur d'être punis que, à la fin, les enfants finissent par développer tout un mécanisme de mensonge. Donc vraiment, punir un enfant, c'est vraiment contre-productif et ça va plus lui amener une résistance, envie de se défier, de se révolter. Et c'est tout l'inverse de ce que généralement les parents voudraient. Les parents, ils voudraient juste qu'ils ne recommencent pas ou qu'ils calment ce comportement-là. Ou qui prennent conscience, ou qui grandissent, ou qui gagnent en maturité. Donc ça, c'est tout l'inverse, la punition.
C'est vrai que là, de ce que vous évoquez, moi, ce que je comprends, c'est que non seulement ça peut monter crescendo, et en plus, pour le coup, les enfants, de toute façon, vont établir, et c'est naturel, des stratégies de préservation vis-à-vis de la punition. Donc, vous parliez du mensonge, mais ça, en effet, ça peut prendre différentes formes. Et pour le coup, ça ternit. Le lien entre l'enfant et le parent, ça apporte pas grand-chose, voire rien. Il y a différents arguments qu'on entend régulièrement. Le premier, c'est de savoir, est-ce que tu vas pas en faire un enfant roi ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de permissivité néfaste ? Est-ce que tu vas pas te faire marcher dessus ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Alors, il y a plusieurs choses dans vos propos. La première chose qui ternit le lien, c'est aussi un effet de la punition, c'est les enfants perdent de l'estime d'eux-mêmes. Un enfant que l'on punit beaucoup, que l'on punit systématiquement, il a l'étiquette de mauvais garçon, fille sotte ou coquine, etc. Et ils ont des étiquettes très vite qui collent à la peau, hein, qui après ont beaucoup de mal à s'en séparer. Donc, ils restent après dans ce rôle-là. Plus vous dites à un enfant qu'il est timide, plus il deviendra timide. Plus vous dites à un enfant qu'il est sot, et plus il deviendra sot, puisqu'après, ils vont se conforter avec vos propos. Ils vont devenir aussi ce qu'ils entendent d'eux. Donc voilà. Après, dans l'autre sens, ils perdent de l'estime d'eux-mêmes. Et c'est aussi un effet indésirable hein, de cette punition. La punition, c'est un peu comme le bâton et la carotte. C'est-à-dire qu'on conditionne l'enfant. On va le conditionner, on va lui apprendre à réagir en fonction de son envie de la récompense ou sa peur de la punition. Et on ne lui apprend pas à raisonner, on ne lui apprend pas à avoir du discernement, on ne lui apprend pas à avoir un impact sur ses actes ou à réagir en fonction des conséquences ou en fonction de l'environnement, etc. Non, à aucun moment. On va juste tendre ou le bâton ou la carotte. Moi, je dis ni punition, mais ni récompense. On a aussi d'autres solutions à apporter aux enfants et d'autres formes d'éducation. Et puis, je pense que les parents aujourd'hui, ils ont plus envie d'avoir une éducation. Alors, quand on dit bienveillante, souvent, il y a un amalgame entre bienveillante et permissive. Donc, c'est là où on peut aussi penser que l'enfant peut avoir, la main mise sur ses parents, vouloir reprendre une autorité, etc. Est-ce que vous, à l'école, quand vous étiez plus jeune, vous vous souvenez d'un professeur qui était respecté ?
Respecté, oui. Oui, tout à fait, oui.
Est-ce que c'était un professeur qui punissait, qui criait, qui hurlait sur ses élèves ?
Ben non, bien au contraire.
Justement. Et voilà. Un professeur qui a de l'autorité, qui est respecté, souvent il a une voix douce, il parle doucement, il est calme, et quand il rentre, il y a un silence naturel qui s'établit. Parce qu'il a transmis du respect à ses élèves et de la fermeté. Donc c'est les deux, hein, c'est un cadre, il n'y a pas d'injustice, il y a un cadre, et ça par contre, c'est ce qu'il faut essayer de faire à la maison aussi. C'est-à-dire d'avoir cette posture de parent inspirant, je dis, au lieu d'être un parent réactif qui va réagir à toutes les petites infractions de son enfant en disant « touche pas ci, mets pas ton doigt là, fais pas ci, arrête de sauter, arrête de courir, non mais ça suffit ». Alors déjà, quand je vous dis tout ça, on a utilisé que le négatif. On a utilisé que les choses qui sont « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Et le cerveau ne comprend pas la négation. Est-ce que vous avez quelque chose devant vous, Cédric, là ? Est-ce que vous avez un stylo, quelque chose à observer ?
Oui.
Je vais vous faire un petit jeu. Voilà. Alors, les auditeurs aussi, prenez quelque chose face à vous, un stylo, une tasse de café ou un clavier d'ordinateur, et vous allez l'observer pendant quelques secondes et je vais vous demander de ne pas y penser. Est-ce que c'est facile ?
Eh bien, non.
Eh bien, non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ne pas penser à ce stylo, le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau comprend, pense au stylo. Le cerveau d'un adulte pourrait penser à autre chose s'il visualisait quelque chose d'autre. À la place d'un crayon, vous pourriez visualiser un bâton, faire un peu, projeter une autre image sur votre stylo. Ça, c'est un cerveau mature qui peut le faire. Un cerveau qui a 25 ans, pas en dessous. La maturité du cerveau. Donc, quand votre enfant est en dessous de 25 ans, vous pouvez lui donner ce droit à l'erreur. Il n'a pas le cerveau qui fait qu'il peut visualiser autre chose. Donc, quand vous dites à votre enfant, ne cours pas, ne touche pas, ne tape pas, il entend cours, touche, tape. Donc, c'est l'inverse de ce que vous voulez. Donc, dans ces cas-là, vous allez vraiment entraîner encore le comportement et remettre un peu d'huile sur le feu. Donc, la consigne que l'on va donner aux parents, c'est de changer sa façon de voir les choses et de transmettre les informations à l'enfant. Quand un enfant rentre dans une pièce et qu'il court, vous lui dites « marche ». Le mot, il est clair et il sait ce qu'il a le droit de faire. Il rentre en hurlant dans le salon, vous lui dites « chuchote ». Tout de suite, l'enfant comprend, le cerveau comprend les mots simples, mais basés sur ce qu'il peut faire. Quand on dit à un enfant tout ce qu'il peut faire, c'est beaucoup plus facile que quand on lui dit tout ce qu'il ne peut pas faire. Et on arrête de râler, répéter, s'énerver, crier, etc. On n'est plus que dans ce qu'il a le droit de faire et c'est beaucoup plus facile. Tu as le droit de toucher à ça. Et là, l'enfant, il sait ce qu'il a le droit de faire, donc il ne va pas tenter de toucher tous les bibelots de la maison.
Ouais, tout à fait. Alors après, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez... complexe à mettre en œuvre, hein, faut pas se mentir, on part de loin, et j'encourage les parents qui nous écoutent à tendre à travailler ça, mais ne vous mettez pas non plus une pression de dingue, c'est pas parce qu'il y aura une négation de temps en temps que tout à coup tout va s'effondrer, que ce soit bien clair, mais l'information n'en demeure pas moins essentielle, et moi dans le métier est d'accompagner l'humain, et je l'ai fait pendant 15 ans en entreprise, et dans le sport, et en associatif, très clairement ce qu'on dit là, ça marche aussi avec les adultes, hein. Bien sûr, l'adulte peut analyser, mais le message passe plus facilement quand on parle, quand on évite la négation. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui me semble important. Et je voulais souligner aussi quelque chose de très important d'un parallèle et d'une observation que j'ai fait quand même sur beaucoup d'années de ma vie, c'est le système de punition-récompense qui s'installe et qui s'insinue complètement dans l'être de l'enfant, qui empêche de raisonner, qui empêche de s'auto-évaluer notamment quand on est ensuite dans le monde de l'entreprise. Et on ne fonctionne plus qu'au travers des yeux de sa responsable hiérarchique. Et on attend soit une récompense, soit une punition. Ce qui est souvent soit une prime, soit une sanction. Et entre les deux, il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien. On ne peut pas être juste satisfait de quelque chose d'effectué. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Et il y a un autre argument qu'on entend souvent, et c'est intéressant que vous ayez parlé de l'école pour le coup, parce que souvent, l'argument qu'on entend, c'est « Attends, mais il faut bien les préparer à ce qui les attend, à ces petits gamins. » Et en effet, quand on arrive à l'école, par exemple, on va rencontrer des punitions. Donc les parents se disent « Il faut que je les prépare. »
Je suis désolée, parce que moi, les enfants qui étaient très très sages, je ne les ai jamais punis à l'école. Alors, si votre enfant est très sage à l'école, il n'y a pas de souci, hein, vous allez voir. En développant ça, en fait, en essayant de développer l'esprit critique de ces enfants, à la maison, ils vont avoir le même comportement à l'école. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas reproduire forcément les bêtises. Ce sera des enfants qui vont être confiants, qui vont avoir confiance en eux, qui vont pouvoir peut-être argumenter, qui vont pouvoir se poser sans se fâcher. Les émotions seront mieux gérées. Ils vont prendre du recul, ils vont pouvoir poser les choses. Donc, tout ça, vous allez leur apprendre à la maison et ils vont pouvoir le transposer à l'école. Donc moi, j'espère vraiment que ces enfants-là n'auront pas de punition. Après, il y a des enfants qui ont des particularités. Et quand je dis ça, c'est que tous les enfants sont bien différents. Ils ont tous un caractère bien différent. Il y a toujours le petit bougeon ou alors le plus contestataire ou le petit dernier ou au contraire l'aîné. Bref, enfin bon, voilà, on a un peu tout style d'enfants. Après, il y a des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles neurologiques avec des troubles qui peuvent être sévères, et ceux-là, eh ben, c'est pareil. Ils ont un trouble qui souvent ne permet pas de réfléchir, ils agissent et puis ensuite ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, ou voilà, la balle est déjà allée trop loin et dans le jardin du voisin par exemple, ou sur le carreau. Donc ça, ces enfants-là, pareil, il faut aussi les accompagner, parce que ceux-là, ils sont tellement réactifs qu'ils sont souvent punis davantage. Et ça, c'est souvent un trouble neurologique. Après, c'est aux enseignants de gérer ça. Et par les punitions, on accentue ce trouble. Ça, ce sont les médecins qui l'ont trouvé. Donc, vraiment, même quand vous avez des enfants qui ont des comportements difficiles, opposants, etc., plus vous allez les punir, plus ils vont être punis et plus la situation s'empire. Donc vraiment, j'invite les parents ce soir à vraiment reprendre tout ça en main pour pouvoir donner d'autres clés à ces enfants que la punition. Parce que globalement, j'ai beaucoup de parents aussi après qui culpabilisent, on n'en a pas parlé de ça. Mais la réaction du parent qui a crié, râlé, répété, et l'enfant qui a continué de s'opposer jusqu'à ce qu'il y ait une sanction, une punition, en allant se coucher, souvent le parent il est pas très très bien, parce qu'il se dit, ah, j'ai dû encore le punir, ça va toujours pas, il n'a encore rien compris, je suis complètement désespérée. Donc après, il y a aussi la posture du parent. Le parent se remet en question, il doute de ses compétences parentales et il a l'impression qu'il manque d'autorité. Donc qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il punit davantage. Et c'est un cercle qui est vraiment vicieux et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce cercle infernal. Et puis, alors doucement, hein, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Et comme vous disiez tout à l'heure, de toute façon, pour changer une habitude, il faut entre 21 et 66 jours. Donc, soyez zen. Si vous n'y êtes pas arrivé demain matin ou après-demain, vous allez vous laisser un peu de temps pour faire les choses. Mais d'en avoir conscience, on se rend compte que le caractère ou plutôt le comportement de l'enfant va vraiment changer. Et on se dit, ah tiens, peut-être que ça marche. Ça marche. Alors, vraiment, faut aller doucement. Quand on est parent, il faut aussi être indulgent avec soi-même.
Mais complètement. Alors ça, je ne peux que vous rejoindre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, la culpabilité parentale, et qui peut mener malheureusement à des situations très complexes. Hein. Le burn-out parental, c'est un sujet qui existe. Je crois d'ailleurs que vous êtes intervenu très récemment sur le sujet dans les médias. Et d'autant plus quand on veut faire de l'éducation dite bienveillante. Parce que on veut tellement bien faire que, à un moment, chacun est aussi avec ses ressources. Et on s'accorde pas forcément de droit à l'erreur, et pour le coup, quand ça arrive, c'est dramatique. Donc, je pense que ça fait beaucoup de bien aux parents d'entendre ça. Avant d'aller sur les alternatives, justement, à la punition et ce que vous pourriez préconiser, je voudrais juste rebondir sur le propos qui m'a interpellé dans votre réponse par rapport à l'école, où vous parlez d'être sage. Moi, c'est quelque chose qui, personnellement, où je me dis, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on met derrière être sage? Parce que si on attend, par exemple, comme ça peut être le cas dans la maternelle de ma commune, d'enfants de 3, 4, 5 ans qui restent assis sur une chaise pendant 3, 4 heures d'affilée, moi, ma fille, je pense qu'elle sera jamais sage.
Alors ça, être sage, c'est souvent les parents qui le disent aux enfants. Hein. Sois sage avec la maîtresse, ou sois sage à l'école. Combien d'enfants entendent ça, ou je compte sur toi, hein. Tu vas être sage aujourd'hui, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, le principe de sagesse que l'on entend dès qu'on a un petit au revoir de parents avec leurs enfants, c'est globalement sur 30-32 élèves, je pense que je devais l'entendre 25 fois. Et voilà, après c'est vrai que d'être sage ou d'être sot, c'est pas le plus important à l'école. Moi je pense que d'être heureux, c'est le plus important. Aller à l'école en étant heureux d'aller à l'école, moi je pense que c'est vraiment le point central. Et souvent les enfants, quand ils sont heureux d'aller à l'école, ils sont vraiment contents d'apprendre. En général, ils pensent moins à faire des bêtises. quand on occupe bien les enfants, quand on rend le cours passionnant, quand on va mettre en place des choses qui vont leur permettre d'écouter. Moi, j'étais cet après-midi, maintenant j'enseigne avec lycée professionnel dans une zone d'éducation prioritaire. Donc ce sont des enfants qui, enfin des ados même, hein, qui ont un peu de mal avec les règles, les choses comme ça. Et c'est à moi, en fait, de mettre en place des mécanismes ou de mettre en place des stratégies pour que mes cours soient intéressants et pour que je puisse capter leur attention et que je puisse rebondir sur ce qu'ils sont en train de dire. Et finalement, je les rends acteurs. Je leur dis que aucune réponse n'est fausse, que toute réponse, ils peuvent tout tenter. Donc, ils osent parler, ils osent lire, ils osent prendre la parole. Je donne des points supplémentaires à ceux qui prennent la parole et qui vont lire. Donc, tout le monde lève la main dans la classe. C'est juste génial. Après, j'encourage chaque fois que quelqu'un a écouté quelqu'un d'autre, je vais le signaler. Donc, ils sont tellement fiers qu'ils continuent d'écouter. Donc, c'est vraiment après, dans la posture, que ce soit enseignant ou parent, je pense que c'est vraiment ça, c'est rendre le quotidien aussi peut-être plus intéressant, plus inspirant, plus fun dans les maisons. Quand je dis fun, c'est vrai, quand vous rentrez le soir du travail et que vous êtes fatigué, souvent les enfants, ils sont plus fatigants. Si vous êtes joyeux, si vous êtes tout d'un coup, vous avez une bonne nouvelle, vous êtes heureux et tout va bien, eh ben bizarrement, ce soir-là, il y a moins de bêtises et votre enfant, il va venir vous faire un câlin ou alors votre ado va vous faire une blague. Voilà, il va y avoir quelque chose de plus fun aussi à la maison. Donc, quand on sent qu'on est fatigué, que l'on est exaspéré, qu'on a passé une mauvaise journée, il vaut mieux prendre 3 minutes et puis penser à soi, se recentrer sur soi, respirer, réfléchir, se mettre un peu de l'eau sur le visage et boire un verre d'eau, par exemple. Et puis après, on va vers les enfants. Et quand on va vers les enfants, on se dit, ça y est, maman, je suis disponible pour mes enfants. Je vais prendre ce soir peut-être un peu de temps pour moi pour digérer cette nouvelle que je viens d'apprendre ou je sais pas, de la journée. Mais il faut vraiment essayer d'être le plus détendu possible parce que c'est à ce moment-là que les enfants vont eux aussi être plus sains, plus zen et plus sereins. Donc, la posture du parent, elle est importante. Prendre soin de soi, c'est très, très important. D'ailleurs, dans les consignes de sécurité des avions, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre siège. Il y a une consigne qui est sur le siège avant. Et c'est en cas de crash, il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur l'adulte et ensuite le poser sur l'enfant. Donc, c'est vraiment la même chose quand on est parent. Moi, je pense que vraiment, de prendre soin de soi, c'est quand même au centre de tout pour pouvoir prendre soin de son enfant après, être disponible pour lui. Et donc faites-le, hein, faites des choses qui vont vous faire plaisir. C'est pas être égoïste, au contraire, c'est recharger les batteries, sinon on est sur 1% de batterie et on ne peut plus du tout tenir et puis c'est là où on craque et on se fâche. Donc vraiment, en prenant du temps pour vous, et ben vous allez redonner aussi un peu de souplesse dans la famille et un peu de bonheur dans la famille. Donc vraiment, il faut le faire sans limite quand même, hein. Il faut vraiment, parce que les parents d'aujourd'hui, ils sont la tête dans le guidon, ils courent de partout, ils essayent d'être performants dans tous les plans, sur tous les plans plutôt. Donc vraiment, les parents, c'est ils se donnent un challenge qui est très 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 important. Donc se dire que oui, on a le droit à l'erreur, oui, on peut ne pas tout réussir, et puis on peut l'expliquer à l'enfant, hein. On peut très bien dire à son enfant, bah, écoute, ce soir, je crois que je suis pas la super maman parfaite. Il y avait un livre, vous qui étiez dans les livres, c'était le catalogue des parents. Je sais pas si un jour vous l'avez lu, le catalogue des parents, c'est un livre qui est très drôle parce qu'en fait, dans ce catalogue, l'enfant peut choisir un autre parent. Mais en fait, quand on lisait bien tout le livre, à la fin, on avait tellement envie de choisir son vrai parent parce que dans ce catalogue, ils étaient tous un petit peu plus enfin pire que son parent. Donc vraiment, si on peut dire ça à son enfant, bah écoute, vraiment ce soir, je pense qu'on pourrait choisir dans le catalogue des parents un autre parent, et l'enfant, bah il va vous serrer dans les bras, il va dire mais non maman, mais non papa, c'est toi que j'aime et c'est toi, avec toi, que je suis le mieux. Donc vraiment, mettez un petit peu d'humour. Et on peut avouer à son enfant qu'on est fatigué, on peut avouer qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de se détendre, et voilà. Donc après, les enfants ont des idées, hein. J'ai une maman, pas plus tard que la semaine dernière, qui me disait, moi, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait un conseil de famille pour que tout le monde trouve des solutions pour moi. Et le petit dernier a amené son sac de billes, a rempli une bassine d'eau tiède et il a mis les billes au fond. Il a dit à sa maman, tu mets les pieds dedans et ça va te faire un petit massage. Et c'était tellement génial que toute la famille a fait des petits massages dans les bassines avec des billes. Donc vraiment, on peut demander aux enfants de trouver des solutions, et les enfants en ont aussi, et ils savent aussi prendre soin des parents.
Tout à fait. Alors oui, en effet, c'est vrai que quand on laisse l'empathie s'exprimer, et l'empathie et l'amour s'exprimer, il se passe plein de choses. Je vous rejoins aussi sur l'importance de prendre soin de soi. Souvent, les gens, on dit aux gens, non mais prends soin de toi, c'est un petit peu injonctif, et j'apprécie le fait que vous expliquiez derrière. Moi, dans un atelier, j'ai coutume de dire que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux personnes qu'on aime, c'est de leur donner de l'énergie, parce qu'on n'a rien de plus précieux. Et le truc, c'est que pour leur en donner, en fait, ben, il faut réussir à en récupérer un peu avant. Et ça, c'est extrêmement important. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu des grands principes, voilà, on a un petit peu peint les punitions. Concrètement, quelles alternatives vous préconisez pour éviter les punitions?
Alors, pour les arrêter, il faut prendre un petit peu de temps déjà pour réfléchir à ce qui ne va pas à la maison. Tout ce qui ne va pas, vous allez prendre 2-3 minutes et le lister. Ça va vite, hein. De toute façon, en général, ce qui ne va pas le lundi, c'est la même chose le mardi, mercredi, jeudi. Les choses se répètent et malheureusement, voilà. Donc, c'est vite fait. En 10 minutes, vous allez écrire quelques petites phrases de tout ce qui ne va pas. Donc, tout ce qui ne va pas, ça va être votre objectif. C'est ce que vous voulez changer. Donc, c'est ce que l'on veut changer. On va vous donner des nouveaux objectifs. Donner des nouveaux objectifs, c'est de se dire qu'est-ce que moi je veux pour mes enfants, qu'est-ce qui sera le mieux pour ma famille, et en fonction de mes valeurs, en fonction de qui j'étais quand j'étais petit et qu'est-ce que mes parents m'ont transmis. Après, on peut faire la même chose en couple, hein. Demander à son partenaire de faire la même chose et de lui demander de noter ses valeurs. On se met d'accord en couple et on essaye de se dire, ben voilà, on voudrait que nos enfants aient la valeur, je sais pas, du travail, du respect, de l'empathie, de l'entraide. Toutes ces valeurs-là, il faut les noter. Alors, il faut les noter parce que c'est un petit peu comme si on mettait une destination dans un GPS. Vous savez, quand on part en voiture, eh ben, si on n'a pas de destination, on tourne en rond et on reste au même point. Donc, quand on est parent, c'est pareil. Il faut se dire, voilà, ce que je veux changer, mais ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir dans cette vie de famille? Qu'est-ce que je vais développer? Donc, de se fixer ça, c'est comme si on mettait une destination. On va quelque part. Après, ben, il y a un premier pas. Il faut décider du premier pas, de ce qu'on va faire. Donc, si c'est demain, je vais faire un tout petit pas pour aller dans la direction de ma valeur. Donc, si c'est par exemple, je voudrais que mes enfants développent de l'écoute, eh ben, peut-être que pendant le repas, on va mettre un petit bâton de parole et on va apprendre à s'écouter. On va mettre une petite chose qui va être très courte et qui va développer l'écoute. Et on va se donner des tout petits défis, des tout petits challenges en famille pour développer l'écoute. Et au bout d'une semaine, on va se dire, est-ce qu'on sait écouter davantage?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
On va faire le point. Est-ce qu'on a réussi le challenge de l'écoute, par exemple? Donc ça. C'est se fixer une destination après des petits pas pour y arriver. Parce que c'est toujours par des petits pas qu'on avance et qu'on va plus loin. Et en plus, on est du coup très doux avec soi-même. Parce que si les petits pas ne marchent pas, si on recule, eh ben, c'est pas très grave. Donc voilà, après, il faut aussi donner un petit peu, rendre les enfants acteurs. Les rendre acteurs, les impliquer dans vos décisions et les laisser aussi trouver des solutions. Tenir compte de leurs idées, ça c'est très important. Mais c'est pareil dans le monde de l'entreprise, hein. Quand vous laissez un salarié être acteur, eh ben il va devenir, il va libérer son potentiel et il va essayer de donner le meilleur. Alors que si vous lui impliquez quelque chose, un protocole, il faut qu'il se conforte à certaines choses, il va le faire. Il va le faire, mais en râlant, en traînant les pieds, et puis il sera beaucoup moins motivé. Donc, c'est la même chose pour les enfants. On va les impliquer, on va tenir compte de leurs idées. Donc, si jamais, par exemple, il y a un petit souci dans votre famille, et que entre les frères et sœurs, eh ben, vous faites un petit conseil de famille, et vous allez aborder le souci très rapidement. Souvent, les parents, ils développent le souci. Et puis, non. Vous allez, en une petite phrase, dire, voilà, tous les matins, on est en retard pour aller à l'école, on veut trouver des solutions. Allez, maintenant, Léon, donne-nous tes solutions. Célestine, donne-nous tes solutions. Papa, donne ses solutions. Bref, tout le monde donne ses solutions. À la fin, on les note. Et on va trouver celle qui nous paraît la plus judicieuse. Et pendant une semaine, tout le monde essaye de faire la solution la plus judicieuse pour résoudre ce problème-là. Donc vraiment, la résolution de situations compliquées, les enfants peuvent vraiment prendre part. Et quand les idées viennent de tout le monde, elles sont beaucoup mieux acceptées et mieux suivies après des faits. Donc vraiment, on prend compte des idées. Ensuite, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand on punit un enfant, voilà, on donne une punition qui est souvent arbitraire, qui est souvent tombée comme ça, parce que le quatrième soir, on n'en pouvait plus, ou au bout de 3 heures, on n'en pouvait plus. Donc, la punition, elle est des fois pas cohérente, elle arrive comme ça, un petit peu au milieu de nulle part, et puis elle peut être du coup plus importante, ou au contraire, pas assez réfléchie, pas assez anticipée, et l'enfant, on ne la comprend pas dans ces cas-là. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si on demandait à l'enfant, lui, de réparer ce qu'il a fait de pas bien, etc., et bien quand on pose cette question aux enfants, alors ça, je vous dis, parce qu'au tout début de ma carrière d'enseignante, je voulais déjà pas punir, et j'étais très embêtée, j'avais pas d'idée de punition. Donc quand un enfant faisait une bêtise dans la cour, je lui demandais de venir s'asseoir à côté de moi, et je disais, écoute, je suis très très embêtée parce que je ne sais pas comment te punir, qu'est-ce que tu te ferais, toi, comme punition, donne-moi une idée. Et quand j'écoutais la punition des enfants, j'étais étonnée. Faites le test un jour, ils choisissent des punitions qui sont beaucoup plus importantes que ce que j'aurais pu imaginer. Ils s'auto-infligent une peine plus grande. Quand on leur demande de réfléchir, les enfants vraiment se disent « Ah, c'est terrible ce que j'ai fait, ça va vraiment pas ». Donc là, vous allez vous rendre compte que c'était peut-être pas aussi important et que la punition, est-ce qu'on pouvait pas faire autrement? Moi, j'ai commencé comme ça, avant même de changer quelque chose dans votre vie de famille, essayez de demander à votre enfant, mais comment tu ferais, toi, là? Qu'est-ce que tu te ferais comme punition? Et vous allez être surpris de voir que eux-mêmes, ils s'infligent des choses terribles. Après, dans les solutions, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis notre GPS, qu'on a mis tout ça en place, après, il faut mettre des balises. Les balises, c'est un petit peu comme quand on est dans un petit bateau et que on va avoir la côte, il y a les phares, vous savez, qui clignotent. On va pas vers les rochers, on va pas vers les récifs, etc. Donc, il faut essayer d'aménager l'environnement pour que la nouvelle mission de toute la famille se fasse. C'est-à-dire que si vous avez, des choses qui sont fragiles dans votre salon et que vous savez que vos enfants vont risquer de les casser, etc., bah pourquoi pas les déplacer, les mettre en hauteur. On peut aménager l'environnement. Moi, j'ai une maman qui me disait, moi, mon enfant, le soir, quand il rentre de l'école, il fait le petit pousset. C'est-à-dire qu'il enlève ses chaussures, sa veste, son cartable, mais alors il laisse tout traîner par terre. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais en fait, normalement, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, il me dit, faudrait qu'il mette ses chaussures dans le placard, et puis sa veste sur le porte-manteau, etc. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui empêche votre enfant? Et là, elle a réfléchi, elle me dit, le porte-manteau est trop haut et le placard est fermé à clé. Et c'était peut-être tout bête, mais en fait, en changeant l'environnement, on peut adapter aussi et se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on pourrait modifier et qui peuvent vraiment simplifier la vie d'un parent. Donc, prenez le temps d'observer votre maison, de l'adapter à tout ça. C'est-à-dire que si vraiment la chambre est tellement mal rangée, peut-être qu'il y a trop de jeux. Vous allez pouvoir en mettre la moitié dans des caisses en hauteur et vous les ressortez au mois de juin. Et quand 6 mois après, vous les ressortez, les enfants, c'est comme si c'était Noël, hein. Ils sont tellement contents de retrouver des jeux. Donc, vous en mettez moins, vous faites une chambre minimaliste. Et vous allez voir, vous rangerez beaucoup moins de choses et l'enfant, ça sera beaucoup moins découragé aussi de devoir ranger une multitude de jeux. Donc voilà, on peut aussi mettre des étiquettes avec le dessin du jeu. Et comme ça, l'enfant, même s'il sait pas lire, il a la photo. Vous savez, dans un catalogue de jouets, vous touchez juste sur la caisse. Donc c'est vraiment aménager l'environnement pour arrêter de râler, de répéter, de réexpliquer et favoriser en fait l'autonomie. On va favoriser l'autonomie, ça c'est Maria Montessori qui nous l'a appris. Hein. Un enfant grandit quand il fait les choses par lui-même et quand il les teste et quand il les réalise et elle laissait expérimenter les enfants. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de le faire, il faut se dire que les enfants sont capables de faire certaines choses. et plus de choses que l'on pense.
Mais ça, oui, tout à fait. Je vous rejoins complètement. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est chouette d'entendre que voilà, on peut mettre des choses en place. Ça demande, pour le coup, comme on le comprend assez vite, de prendre le temps d'eux. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose vraiment qui me semble important, et c'est marrant parce que je fais vraiment des parallèles aussi, alors que ce soit avec la parentalité, mais aussi avec le monde de l'entreprise. Vous faisiez aussi le parallèle tout à l'heure. C'est vraiment, on a les mêmes sujets en entreprise. Enfin, de toute façon, je pense qu'en association, c'est pareil. Enfin, voilà, en club sportif, c'est pareil. On a des problématiques, mais on ne prend pas le temps d'analyser quel mécanisme est en jeu sur cette problématique. Alors que pour le coup, quand on prend le temps, ben, souvent on trouve des solutions. Et quand on implique les gens concernés, on trouve des solutions. Ça marche pour les enfants, ça marche pour les employés, ça marche pour beaucoup de gens. Donc là, on a parlé des éléments où on va réfléchir, on va mettre des choses en place. Mais qu'est-ce qui se passe là sur l'instant? Comment est-ce qu'on réagit face à un comportement dérangeant ou inadapté?
Alors ça, ce qu'on disait, c'est anticiper. Tout ça, c'est vrai qu'il faut anticiper sa vie de famille, anticiper les changements. Il faut prévenir les enfants. Alors prévenir un enfant de ce que vous attendez. Ce qu'on disait, c'est-à-dire si cette semaine, on a décidé que tout le monde se déplaçait en marchant dans la maison, par exemple, si ça pouvait être la mission de la semaine, eh ben on va prévenir la famille, on va prévenir que tout le monde va faire ça et que c'est un défi, on va l'informer, l'enfant, de ce que l'on attend de lui. Là, c'est très important. Pour l'informer aussi, il faut lui poser des questions pour s'assurer qu'il ait bien compris. Vous savez, la fameuse phrase « ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre ». Eh bien, à un moment donné, il faut que ça s'arrête au niveau du cerveau et que l'enfant puisse réfléchir. Donc, pour qu'il puisse réfléchir, vous allez lui poser la question. Qu'est-ce qu'on va faire tous cette semaine? Eh bien, nous allons marcher. Ah bon, mais à quel moment on va marcher? Ah ben, quand on traversera le salon, par exemple. Je ne sais pas, je prends toujours la même règle, mais choisissez une autre règle, quelque chose, un effort familial. Hein. Il faut quand même que tout le monde fasse un effort. Après, parce qu'on a les fameux neurones miroirs qui font que l'enfant, il imite aussi son parent. Plus vous criez, plus l'enfant crie. Plus vous chuchoterez, plus l'enfant chuchotera. Donc c'est ça aussi, c'est prendre en compte que bah, nous aussi, en tant que parents, on va changer notre façon de faire. Après, bah, on va essayer de communiquer ce qu'il a le droit de faire, comme on disait tout à l'heure, en n'utilisant que des formules positives, parce que son cerveau comprendra mieux. Sincèrement, mettez-vous un petit nœud dans le mouchoir et faites le test et vous verrez. Et puis après, il faut se rendre compte aussi que la communication entre les enfants et les parents, elle est bien différente parce que on pense pas de la même manière quand on est enfant et quand on est parent. Les parents, le matin, préféreraient que l'enfant se prépare vite dans le temps imparti et qu'il soit prêt pour aller à l'école. L'enfant, quand on lui demande de se préparer, lui, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est jouer, 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 jouer. Donc vraiment, on est déjà sur deux mondes différents. Le matin aussi, le parent, il est pressé de laisser son enfant souvent à l'école, à la crèche, etc. parce qu'il anticipe déjà sa journée, les bouchons, l'arrivée au travail, etc. Donc là, le parent, il a tout ce schéma-là dans la tête. L'enfant, à ce moment-là, il a juste envie d'un gros bisou, d'un gros câlin qui va durer, 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 durer. Bref, on a tous, à un moment donné, un besoin qui est différent. Et le besoin de l'enfant n'est pas forcément l'envie du parent. Donc, quand on est déjà dans un moment où on se rend compte que l'enfant n'écoute pas, n'obéit pas, on peut se dire, mais de quoi mon enfant a besoin à ce moment-là? Est-ce qu'il a besoin d'un double câlin? Est-ce qu'il a besoin que je prenne deux minutes avec lui? Est-ce qu'il a besoin de jouer? Et auquel cas, moi, j'ai proposé à des parents de les lever cinq minutes plus tôt pour qu'ils aient le temps de jouer. Et ça suffit. Toute la routine après du matin, elle était bonne. Après, il faut avoir des routines. Autant les adultes n'aiment pas les routines, on n'aime pas la routine, autant les enfants adorent la routine. Vous savez, vous avez une petite fille, je crois, Cédric. Je pense que tous les soirs, elle vous réclame une histoire qui est peut-être la même histoire.
Et nous, on a une routine, en fait.
Ah, voilà.
On a une routine, elle a un petit qu'on a fabriqué ensemble. Elle a un petit cadre, en fait, avec des perles qu'elle déplace. Et tous les soirs, c'est la routine du coucher. Est-ce qu'on a lavé les dents? Est-ce qu'on est en pyjama? Est-ce qu'on est passé aux toilettes? Est-ce qu'on a fait un câlin? Et tous les soirs, elle valide ou pas sa routine. Et en effet, je peux que vous rejoindre, les rites et rituels avec les enfants, c'est presque magique.
Oui, bah oui, presque magique, parce que là, il devient autonome. Il fait, là, votre petite fille, elle déplace sa perle. Donc, elle sait quand elle a fait ou quand elle n'a pas fait les choses. Et vous n'avez plus besoin de répéter. Donc, c'est sûr que ça enlève vraiment beaucoup d'énergie négative, parce que répéter, ça prend énormément d'énergie aux parents. Donc tout ça, bah, c'est du temps gagné sur le câlin du soir, sur les bisous, sur les mots tendres, sur remettre de l'amour aussi, reprendre du temps et se reconnecter avec ses enfants. Donc vraiment, la routine, elle est très très importante, et elle est importante pour les petits et pour les grands, parce que même un ado, il a besoin de ça. Hein, voilà. Après, on peut aussi faire remarquer tout ce qui va bien à un enfant. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose de bien, on peut lui dire. Alors, il y a des parents qui vont me dire « Oui, Marie, mais moi, le mien, il fait tellement de bêtises que c'est très dur de lui trouver quelque chose de positif. » Eh ben, j'ai quand même des parents qui en ont trouvé. Je leur ai demandé de faire un petit effort. Et il y a une maman qui m'a dit un jour, je suis rentrée, j'avais demandé à mon petit garçon de s'habiller. Je suis rentrée au bout de 5 minutes, il était en train de sauter sur son lit. Juste, il avait juste mis 2 chaussettes, c'est tout. Il était complètement nu sur son lit, en train de sauter sur le lit. Et elle m'a dit, oulala, quand je suis rentrée pour trouver le compliment à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, elle a regardé. Elle a réfléchi, elle a respiré, je pense qu'elle a certainement soufflé même, hein, pour voilà. Et puis elle a vu les chaussettes. Alors elle lui a dit, mon coco, c'est bien, t'as mis tes chaussettes. Il a arrêté de sauter, il a regardé ses pieds et il s'est rendu compte qu'en effet, il avait mis ses chaussettes. Et là, l'enfant, il a dit, ah ben maintenant, je vais mettre la suite. Elle a vraiment essayé d'axer sur le seul petit truc de positif et ça a enclenché du positif derrière. C'est la même chose pour nous. Alors, on va imaginer une famille où il faut poser les enfants à l'école et que vous arriviez en retard au travail, que ce matin-là, elle n'a pas eu envie de se préparer, que vous êtes tombé dans les embouteillages, que vraiment la matinée est très, très mal commencée. Et quand vous arrivez à votre travail, votre supérieur vous dit « Dis donc Cédric » ou « Dis donc Marie, le monsieur Dupont a déjà appelé 10 fois, on n'a pas trouvé son dossier parce que hier soir t'es parti, ton bureau était vraiment mal rangé, franchement faut vraiment que tu te reprennes en main et que tu améliores parce que là c'est pas possible. Hein. » Est-ce que ça vous donne envie de commencer la journée correctement? Alors le même scénario, vous arrivez en retard, tout s'est mal passé. Vous vous asseyez, vous êtes complètement dépité, peut-être rouge de honte et puis stressé. Voilà. Alors là, cette fois-ci, votre patron, en fait, il vous accueille en disant « Oh là là, Marie » ou « Oh là là, Cédric, je vois que cette matinée était compliquée, t'as posé ton enfant à l'école et ça s'est pas bien passé, peut-être que les embouteillages, puis en ce moment, je te trouve un peu fatiguée. Écoute, prends 5 minutes, va boire un verre ou va prendre un petit café, puis après, tu te poseras et tu vas commencer. Puis Monsieur Dupont, écoute, il a appelé, mais c'est pas grave, on va le rappeler, on va prendre les choses en main. Si tu veux, je peux t'aider sur quelque chose. » Est-ce que vous êtes plus motivé à ce moment-là?
Ah bah, en tout cas, ça me donne plus envie de faire ce qu'on me dit.
Et ben voilà. Et souvent, avec les enfants, ben, on fait la première solution. C'est-à-dire qu'on va faire remarquer tout ce qui ne va pas en pensant les motiver. Alors que c'est l'inverse. Quand on commence à faire remarquer ce qui va, les enfants, ils ont envie de poursuivre leurs efforts. Et ils vont vraiment les poursuivre. Donc, il ne faut pas faire des compliments exagérés. Il faut vraiment être précis, factuel et vrai. Il faut vraiment que les choses sonnent vraies parce que sinon, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment la chose à essayer de faire à la maison. Après, moi, j'aime bien aussi quand il y a des missions. Alors, les règles de vie, j'en suis un petit peu revenue parce que les parents, quand je demandais règles de vie, ils essayaient d'écrire sur un grand papier une 10aine de règles où l'enfant devait signer, puis après on mettait des points verts, des points rouges, bref, etc. On retombait sur des choses très scolaires. Et ça, c'est pas fun du tout, hein. C'est pas drôle du tout. Donc, je préfère que les parents choisissent une mission qui sera faite toute la semaine pour tout le monde. Alors après, on peut l'adapter hein, en fonction de l'âge des enfants, en fonction de plein de choses. Hein. Mais une mission, et ça serait un challenge pour tout le monde. Et là, la mission, quand elle va être respectée, au fur et à mesure, elle va devenir une habitude et vous n'aurez plus besoin d'y penser. Quand on demande aux enfants de se laver les mains en rentrant de l'école, par exemple, si on le fait très régulièrement, au bout d'un moment, on se rend compte que ben, on n'a plus besoin de leur dire, ils vont directement à la salle de bain. Donc, c'est-à-dire que d'une mission, ben, c'est passé à une habitude. Et c'est ça que l'on souhaite à la maison. C'est qu'on ait des bonnes habitudes, en fait. qu'on prenne spontanément le bon chemin ou la bonne direction pour pouvoir aller se laver les mains et pas tout de suite aller jouer ou sauter sur le goûter. Donc c'est vraiment ça, c'est de se donner des missions. Il faut toujours centrer sur le positif et il faut que ce soit constant. C'est-à-dire que la mission du lundi, elle doit être identique jusqu'au vendredi. Et là, vous allez devenir un parent cohérent et il n'y aura pas de sanction intempestive qui va tomber juste parce que vous êtes un peu plus fatigué certains soirs. Donc, il faut rester constant, cohérent et toujours centré sur ce que l'enfant peut faire. Parce que, comme on disait, il comprend mieux. Alors, en cas de crise, par contre, hein, c'est peut-être ça la question que...
c'est ça. C'est comment on fait? Oui. Parce que quand on est sur le moment de la crise, là, on a un enfant qui est en crise. Souvent, on est sur un enfant qui est en pleine colère. Comment ça se passe?
Alors, prenez encore le temps de vous recentrer sur vous. C'est-à-dire, focus sur moi. À ce moment-là, qu'est-ce que moi, je ressens en tant que parent? Est-ce que je suis irritée? Est-ce que j'ai honte? Parce que s'il le fait en plein supermarché, c'est plus ça, hein, c'est le regard des autres. Est-ce que je suis fatiguée, moi, ce soir-là? C'est pas le moment. Il n'a pas le droit de faire ça, là. C'est pas à ce moment-là qu'il faut faire. Donc, on se ressent sur soi au moment de la crise. On ferme les yeux, si on peut, 2 secondes. On respire profondément. Et on essaye de relâcher ses muscles. Alors, j'ai plein de choses, hein. On peut faire un peu de cohérence cardiaque. Je sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, mais il faut inspirer et souffler doucement. Vous le faites au moins 5 fois pour baisser votre stress à vous. Parce que finalement, quand l'enfant est en crise, le parent stresse. Pourquoi l'enfant, il continue? Parce qu'il sent aussi ça. Donc, c'est un stress qui va augmenter des 2 côtés. Et pourquoi il y a moins de crise avec une personne extérieure? C'est que la personne extérieure, elle prend de la distance. C'est pas grave. On va essayer de prendre de la hauteur sur la crise et de l'observer un petit peu comme si vous deveniez un parent drone. Vous allez vous voir un peu au-dessus. Alors, pour ça, soit vous prenez de la hauteur, donc vous mettez un peu de distance en hauteur et un peu d'air, vous prenez de l'air et vous dites, bon, à ce moment-là, il est 12:05, mon enfant a peut-être très très faim, je suis en train de faire des courses, il veut des bonbons. Ben voilà, son besoin, c'est plus de manger et c'est sûr que c'était peut-être pas judicieux de venir faire les courses à 12:05, mais j'avais pas le choix. Donc, on prend de la distance, on se dit, quel est le besoin? Si vraiment on n'y arrive pas, il y a aussi une autre méthode qui est utilisée en PNL, c'est on essaye de remonter une vitre imaginaire entre son enfant et soi, mais tout doucement, comme si vous étiez dans une belle voiture et vous appuyez sur le bouton et la vitre, elle remonte. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir la vision, mais vous n'avez plus le son. Et quand on s'oblige à ne plus entendre les choses, eh ben, on prend du recul spontanément, on est moins impliqué, on se dit pas, je ne sais pas gérer, etc. Et puis après, on peut se dire, on va jouer au détective privé. Donc, on va essayer de décoder ses besoins. Comme je disais, est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a sommeil? Est-ce qu'il a envie de se dépenser? Parce qu'un enfant a besoin de bouger, a besoin de courir, a besoin de s'exprimer. Donc, est-ce qu'on n'a peut-être pas respecté un de ses besoins? Et puis après, on va essayer d'aller vers l'enfant. Alors, s'il a quelque chose de dangereux à ce moment-là, si c'est une situation dangereuse, il faut la stopper. Après, on va lui répéter doucement la consigne. Donc, on va essayer de lui rappeler ce qu'il peut faire, mais en détournant son attention. Après, s'il a fait une bêtise et que vous êtes arrivé, c'était trop tard. Le vase de l'arrière-grand-mère est tout par terre, en 1000 miettes. Donc, on va lui poser la question comment il peut réparer ce qu'il a fait. Alors, vous allez voir, on peut pas forcément recoller le vase, mais on peut lui demander, lui donner une autre chance, en fait, pour rejouer le scénario, pour changer la fin et que ça soit une fin plus heureuse. Donc, un enfant, par exemple, qui rentrerait, comme on disait la maman tout à l'heure, qui rentrerait dans la maison en faisant petit pousset, en mettant tout par terre. On peut rejouer la scène, on lui dit, oh, comme au cinéma, hop, on refait un claque de départ, tu ressors avec toutes tes affaires et là, maintenant, tout va bien se passer. Avec un peu d'humour, ça marche. Et puis, on peut aussi lui demander de dire pardon s'il a affecté quelqu'un, s'il a fait de mal à quelqu'un. Le pardon, c'est très important parce que le pardon, c'est relier les gens les uns envers les autres. C'est dire qu'on va passer par-dessus la bêtise, par-dessus ce qui va pas pour aller se reconnecter à la personne. On va pas oublier ce qu'il a fait, hein. C'est pas ça, hein, le pardon. Mais c'est vraiment faire un petit geste pour aller vers l'autre. Alors souvent, les parents disent, mais moi, il le dit pardon, mais il recommence. Alors c'est sûr, les enfants, quand on lui dit pardon, il dit pardon, mais ils le ressentent pas avec le cœur. Donc, dire pardon comme ça à chaud, ça n'a aucun sens pour moi. Par contre, le soir, quand on est seul avec son enfant, pas quand on a des témoins, mais quand on est seul avec son enfant, on pourrait lui dire « Comment tu pourrais demander pardon à ta petite sœur ? Comment tu pourrais voir avec ton grand frère pour que ça se reproduise pas ?» Et là, à froid, on va réfléchir à une vraie demande de pardon et pas juste « Dis pardon » et l'enfant le dira sur un mauvais ton. Donc ça, c'est très important. Après, on peut aussi, certains enfants petits ont besoin de câlins ou d'être contenus. Il y a des crises de colère qui vont s'arrêter instantanément quand vous prenez votre enfant dans les bras, quand vous le serrez contre vous. Et même avec les enfants qui ont des troubles du comportement, ça fonctionne. Ce sont des médecins qui ont dit ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à le prendre, alors d'une manière bienveillante. Hein, mais voilà, il y a beaucoup de parents qui me disent, à ce moment-là, on sent tous les petits muscles crispés qui se relâchent dans nos bras. Et vraiment, l'enfant, la colère peut tomber. Et puis, on peut évidemment, comme je disais, rechercher ensemble des solutions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec des petits questions. Conseil de famille. Donc ça, c'est vraiment pour moi important d'inclure l'enfant pour que il prenne conscience, mais à froid, on réfléchit avec lui et on réfléchit avec lui. On l'a pas mis seul dans sa chambre pour qu'il réfléchisse. Donc ça, c'est très très important. Et vraiment, l'enfant, quand il a un comportement qui vous correspond pas, que vous ne souhaitez pas, je vous promets que quand il a l'habitude de tout ça, après, un seul regard peut suffire en société pour qu'il arrête son comportement, parce qu'il sait très bien que votre regard, le soir même, vous allez en reparler et que vous allez trouver des solutions avec lui, donc il va s'arrêter net. Donc vraiment, c'est ça l'autorité. L'autorité, c'est une posture, c'est une attitude, c'est montrer l'exemple, c'est croire en ses talents de parents, croire que vous croyez que vous êtes des bons parents. Le matin, réveillez-vous et vous mettez votre cape de super parent. Le parent qui va réussir, le parent qui saura faire, le parent qui va être, quand je dis bienveillant, mais rassurant. Le parent qui va être cadrant, structurant, qui va montrer tout ce qui est permis. Donc vraiment, le matin, mettez votre posture de parent, de super-héros, hein, ayez confiance en vous, dites-vous que ça va fonctionner, que ça va marcher, que vous avez tout fait pour que les choses soient anticipées, prévues, que votre enfant sait ce qu'il va devoir faire aujourd'hui. Donc vraiment, ça marche. Par contre, il faut de la patience et il faut une grosse dose d'indulgence, mais vis-à-vis de vous-même, les parents.
Et je pense que c'est une très belle phrase pour finir, de rappeler que l'empathie, c'est important de l'avoir, mais aussi et surtout en premier vis-à-vis de soi-même. Merci beaucoup, Marie Costa, pour toutes ces bonnes idées.
N'oubliez pas, si je peux me permettre une dernière petite chose, n'oubliez pas de dire tous les jours à vos enfants que vous les aimez. Tous les jours, quoi qu'il se soit passé. Merci beaucoup.
J'ai pas de meilleur mot de la fin. Merci beaucoup, Marie.
Merci beaucoup.
Dans cet épisode, nous avons beaucoup parlé des punitions et je remercie Marie Costa pour son apport très très concret de toute son expérience et de ses connaissances sur le sujet. Nous avons fait le parallèle dans cet épisode avec la vie adulte et professionnelle notamment, mais peut-être que nous pourrions étendre cette réflexion à la société dans son ensemble. Bien sûr, là, je vous parle de l'univers carcéral. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai une solution pour potentiellement un jour cesser de mettre des gens dans des cages. Ça n'est pas du tout le propos. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à réfléchir. Si la punition ne marche pas sur les enfants, pourquoi marcherait-elle sur les adultes ? Nous sommes tous des humains, et nous savons très bien que nous reproduisons des mécanismes. Pour mener cette réflexion, je remercie Pierre Joucan de m'avoir donné des ressources, et je vais vous les donner. Il y a d'abord le livre « Surveiller et punir » de Michel Foucault. Il y a aussi les sites « Sans mur », « sans » comme le chiffre, « Carcéropolis » sur la prison en France, et le site de l'Observatoire international des prisons. Encore une fois, je n'ai pas de solution, c'est juste une réflexion que je mène moi-même personnellement. Et je pense que c'est un sujet auquel nous devons tous réfléchir, c'est bien sûr un sujet social et politique, mais pour savoir quelle société nous voulons pour nos enfants demain. Sachant que le changement passera par eux. Comme nous l'avons déjà dit avec André Stern, il n'y aura pas de paix sur Terre tant qu'il n'y aura pas de paix avec l'enfance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. à découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.